Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi, en direct avec vous. Alors ce matin, Julia, quelle sera notre grande thématique du jour ?
Eh bien, on va parler d'un aliment miraculeux aux mille et une vertus. Il s'agit du miel. Alors justement, pourquoi est-il un remède millénaire, antioxydant, anti-inflammatoire, cicatrisant même? Les propriétés, je dirais même les pouvoirs du miel sont nombreux et certains sont encore insoupçonnés. On va donc vous révéler aujourd'hui quelques-uns des secrets de l'or de la ruche. Et pour cela, nous recevrons deux experts de ce sujet, Joseph Hermelet, apiculteur, ingénieur et docteur en biophysique, ainsi que Marie-Claire Frédéric, elle est journaliste culinaire et historienne de l'alimentation.
Ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour notre partie tendance avec notre équipe de chroniqueurs. Il y aura d'abord Philippine Darblay. Elle va nous mettre le nez ce matin sur une mode étonnante. Elle va nous parler de déco érotique, une déco très olé olé, ça devrait vous séduire. Et enfin, c'est Nathalie Le Breton qui nous rejoindra, comme tous les mercredis, pour sa chronique Lecture Jeunesse. Dans sa sélection du jour, on va parler d'individus adorés de nos enfants. Les animaux domestiques seront à l'honneur dans les livres du jour de Nathalie. Voilà, bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good sur Europe 1. Voici notre question du jour ce mercredi. Pourquoi le miel est-il un remède millénaire ?
Oui, on va passer à la loupe ce matin ce produit dont l'intérêt va de l'usage culinaire à de potentielles applications médicales. On examinera bien sûr sa composition pour comprendre comment les différentes substances qu'il contient agissent précisément. Et puis, on fera aussi un peu d'histoire. Comment ce produit de la ruche a-t-il traversé les siècles ? On détaillera cela avec nos experts dans quelques toutes petites minutes. Mais tout d'abord, on va écouter notre petit butineur d'infos. Oh, je voulais faire une petite tournure de phrase sympa.
Je m'attendais à ça. On va écouter Winnie l'ourson.
Non, butineur d'infos. C'est vous Clément Lanoux, bonjour.
C'est dur à dire, mais c'est très vrai. Bonjour. On va revoir les bases déjà, puisque le miel, selon les enfants parisiens que j'ai croisés, je leur ai demandé où est-ce qu'on le trouvait. Ils m'ont répondu dans un supermarché. Donc d'accord, mais comment se fabrique le miel ? C'est la question que j'ai posée aux enfants.
Là-bas, il y a le butine, le jaune de la fleur.
Ça s'appelle comment ?
Le pollen. Et après, l'agriculteur, il vient le ramasser. Apiculteur, oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, donc les termes, on y est moyen. C'est le pollen, apparemment, que vont chercher les abeilles. Et entre agriculteur et apiculteur, alors ils hésitaient, c'est pas vraiment le même métier. L'apiculteur s'occupe des abeilles, justement, mais l'agriculteur, alors ?
C'est quoi la différence ? L'apiculteur, il s'occupe des abeilles et l'agriculteur, il s'occupe des...
Agriculteur des agrumes.
C'est quoi les agrumes ?
C'est des trucs, des citrons, des pamplemousses.
Voilà, l'agriculteur agrume apparemment. L'école va faire du bien, les cours de SVT dans quelques temps. Le miel, c'est surtout les bienfaits dans tous les domaines. Justement, c'est quoi les bienfaits du miel ?
Oui, j'utilise le miel dans ma vie. Je le mange déjà, j'utilise pour des masques. Je l'utilise pour soigner les toux. Oui, j'utilise beaucoup de vrai miel en fait. Je le cherche, je le ramène de l'Irlande même.
Oh, il y en a de beaucoup plus près. On peut faire énormément de choses avec, justement, que vous ignorez peut-être. On va en parler tout à l'heure. Mais les adultes, est-ce qu'ils sont meilleurs quand on leur demande exactement comment s'est fabriqué le miel ?
Grâce aux abeilles. Alors attendez, je sais en plus. Alors, elles vont butiner, elles ramènent dans la ruche, elles fabriquent avec. Non, je ne sais plus en fait, je ne pourrais pas vous l'expliquer.
Non, je ne suis pas prof de SVT, je ne peux pas vous en dire tellement plus que ça.
Je crois que c'est la reine des abeilles, elle fait de la gelée royale et après, je ne sais pas, ça se mélange et tout. Et puis après, les apiculteurs, ils raclent, je crois, les ruches.
Ouais, ça se mélange dans la tête surtout. On a les termes, on a ruches, on a nectar, mais dans quel ordre ça se passe justement ? Et puis là, j'ai appris un scoop en revanche, en discutant. Alors, c'est les gens dans la rue qui m'ont donné cette information, on la vérifiera peut-être tout à l'heure. J'ai appris que les abeilles n'étaient pas les seules à faire du miel.
Après, il faut savoir que le miel ne se fait pas malheureusement qu'avec les abeilles et qu'il existe maintenant des miels faits par les hommes et qui sont simplement bourrés de glucose et qui du coup ne sont pas des réels miels, mais qui sont pour les véganes.
Très bien.
Ah ouais,
même moi, j'apprends des trucs en allant bosser,
incroyable,
c'est pas mal.
Hein. Merci Clément.
Je vous en prie.
Merci, on va maintenant pénétrer tout de go dans les secrets de la ruche avec nos deux experts qui sont déjà en studio avec nous. Bonjour Marie-Claire Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culinaire, historienne de l'alimentation et autrice du livre « Le miel ». Une autre histoire de l'humanité aux éditions Albin Michel. Avec nous également Joseph Hermelet, bonjour. Vous êtes apiculteur, ingénieur et docteur en biophysique. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Le miel, résurgence d'un remède millénaire » aux éditions Terran. Alors, Joseph, pour avoir du miel, on sait grosso modo qu'il faut des fleurs, du pollen, enfin du pollen, et des abeilles. Mais comment on arrive à l'obtention du miel de façon simple, hein, s'il vous plaît ?
Alors tout d'abord, il ne faut pas de pollen ou de pollen. Le miel est fabriqué à partir du nectar des fleurs. Mm-hmm. Le pollen sert à élever le couvain. Donc c'est une substance sucrée qui est sécrétée par les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Et c'est à partir de là que les abeilles, pas les reines comme ça a été dit, mais les ouvrières vont le ramener à la ruche. Et ils vont rajouter à ce produit végétal des sécrétions animales qui va transformer le miel. Et pour terminer, le miel est mis en conserve. C'est-à-dire, le but du miel, c'est de permettre à la colonie d'abeilles de passer l'hiver. Le miel est donc un produit végétal qui a été transformé par l'abeille et mis en conserve.
Joseph Emerlet, je crois que les Français sont d'ailleurs de très gros consommateurs de miel. On a des chiffres ?
Ah oui, tout à fait. Alors en France, on consomme près de 1,3 kg de miel par seconde.
Je dis bien
seconde. Ce qui veut dire, un petit calcul vous montrera que ça fait 110 tonnes par jour ou 40 000 tonnes par an. Or, les producteurs français n'en produisent que 20 000 tonnes. Donc le différentiel, il vient d'où ? Eh bien, on est obligé d'importer autant de miel qu'on en consomme.
C'est dingue. Marie-Claire, le miel, c'est aussi un des aliments hein, que l'on retrouve partout sur la planète. Dans n'importe quel pays, on peut trouver du miel.
Alors, il y a du miel partout où il y a des abeilles. En fait, parce que évidemment, c'est la limite, c'est la limite de
la
survie,
de
présence
sûr.
Des abeilles. C'est-à-dire qu'autrefois, les abeilles ne survivaient pas, par exemple, au-delà du 60e parallèle qui passe par Oslo. Voyez. Mm-hmm. Donc, au nord de cette zone, il n'y avait pas d'abeilles, donc on ne pouvait pas faire de miel. Aujourd'hui, il y a des techniques modernes d'apiculture qui permettent de protéger les abeilles du froid en hiver, et donc on peut faire du miel en Islande, par exemple.
Ah oui, et puis avec le réchauffement climatique.
Sans doute que ça doit aussi jouer. Voilà.
Marie-Claire, le miel, il est utilisé depuis très longtemps. On a à peu près une idée de ça. Mais je crois que donc, déjà en Égypte antique, il y en avait. Mais même, il y en avait bien avant. Hein,
Miel, les abeilles existent depuis bien plus longtemps que les humains. Déjà, les grands singes, on sait qu'ils consomment du miel à l'état sauvage. Et les humains faisaient la même chose. Donc, les chasseurs du paléolithique consommaient déjà du miel. On a des traces de ça dans des gravures rupestres très très anciennes. Par exemple, en Afrique, il y a des gravures rupestres qui datent de 8000 ans au Zimbabwe, qui montrent déjà l'enfumage des nids d'abeilles par des hommes. Donc, ils avaient déjà des techniques perfectionnées déjà à l'époque.
Alors, Joseph, dans le commerce, on peut voir des miels de différentes couleurs. Qu'est-ce qui fait leur différence, d'ailleurs ?
Alors, la couleur des miels, elle est apportée par trois éléments. Tout d'abord, les flavonoïdes qui sont compris dans les miels. Donc, les flavonoïdes sont produits par la plante qui les a sécrétés dans le nectar et que l'abeille a récolté. Donc, les flavonoïdes, qui sont des pigments, sont les premiers responsables de la coloration du miel. Il y a ensuite également la consistance. Un miel liquide, par exemple, peut être assez brunâtre et une fois qu'il cristallise avec le temps, ce qui est un processus tout à fait naturel, eh bien, il pourra devenir quasiment blanc, en tout cas très très clair. Et enfin, il y a l'âge. Parce que tous les miels foncent avec le temps. Si vous prenez par exemple un miel d'acacia, à la récolte, il ressemble à un vin blanc très très clair, jaune paille. Eh bien, 20 ans après, il sera brun-marron. Wow. Et c'est toujours du miel d'acacia.
Donc ça vieillit aussi. Vous l'écrivez dans votre livre, Marie-Claire, les humains se sont toujours donné beaucoup de mal pour obtenir du miel. La chasse au miel, ça a donc été toujours une entreprise assez risquée.
C'est compliqué. Déjà, il faut repérer où se trouve le nid de l'abeille. Alors pour ça, les humains ont élaboré plein de techniques. Par exemple, dans l'antiquité gréco-romaine, on prenait un tube creux, comme soit un gros roseau, imaginez, ou un tube en bois creux, dans lequel on essayait de capturer des abeilles et ce tube avait un trou. On se promenait dans la campagne, on laissait échapper une abeille, on regardait dans quelle direction elle allait, parce que l'abeille va vers son nid. Et donc on pouvait se diriger vers cette direction. Quand on avait perdu de vue la première abeille, on en lâchait une seconde, et ainsi de suite, pour trouver les nids. Voilà, il y avait des tas de techniques. En Afrique, on pouvait aussi utiliser l'aide d'un oiseau pour chercher les nids d'abeilles. Il y a un oiseau qui s'appelle le grand indicateur, qui se nourrit de larves d'abeilles et de cire. Et cet oiseau, donc, il trouve les nids d'abeilles pour les humains.
Suivre l'oiseau pour trouver le miel.
C'est magnifique, c'est bien son nom.
Poétique.
Hein, merci à tous les deux, vous restez avec nous. On va continuer à détailler les mille et une vertus du miel, des propriétés que l'homme utilise depuis des siècles. Alors justement, pour nous aujourd'hui, il y a tellement de choix. Comment choisir le bon miel qui soit vraiment de bonne qualité, car tous ne se valent pas. Et puis, pour une application davantage tournée vers la beauté ou la santé, comment s'y prendre très concrètement? On va tout vous expliquer sur Europe 1. On se retrouve dans un instant.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on vous pose cette question. Pourquoi le miel est-il un remède millénaire? Nos deux invités en studio nous aident justement à percer les mystères de ce produit de la ruche exceptionnel. Ils sont avec nous, Marie-Claire Frédéric, journaliste culinaire, historienne de l'alimentation, ainsi que Joseph Emerlet, apiculteur, ingénieur et docteur en biophysique. Alors, Joseph, justement, on va voir maintenant que le miel possède de nombreuses vertus, notamment cosmétiques. On va commencer par ça. Quels sont les effets sur notre peau, par quelle substance ça passe finalement cette action aussi sur notre peau?
Alors, le miel est utilisé de tout temps déjà pour soigner la peau, pour cicatriser même. Alors, par exemple, pour compléter ce qu'a dit Marie-Claire tout à l'heure, on a un ancien papyrus, le papyrus d'Ebers, 16e siècle avant notre ère, qui mentionnait déjà des recettes pour utiliser le miel. Mais on peut donner le nom du produit qui agit. Alors, je ne parle pas de l'aspect microbien, on parle bien de l'aspect cosmétique. Hein. Alors, c'est la gluconolactone, qui est un métabolite donc, qui découle du glucose qui se trouve dans le miel, un sucre du miel, et qui bichonne la peau. On peut carrément dire que ça, c'est apaisant, hydratant et anti-âge.
Eh ben justement, je crois que même Cléopâtre avait une routine beauté à base de miel. Vous confirmez ou pas, Marie-Claire?
Tout à fait, je confirme, mais pas uniquement Cléopâtre, plein de grandes dames de l'Antiquité.
Mais elle l'utilisait comment?
Elle faisait des espèces de masques.
Julia voudrait la recette, en fait. C'est ça.
Elle était pas mal, Cléopâtre. En fait, il y a plein de recettes. C'est uniquement des choses tout à fait basiques, naturelles. On mélangeait, par exemple, le miel avec de l'huile d'amande douce. Mm-hmm. Les Égyptiens me mélanger aussi avec du natron. Alors le natron, c'est un sel, mais vous trouvez encore des recettes comme ça de miel avec du bicarbonate, par exemple. Et c'est exactement la même recette que les anciens Égyptiens.
J'ai pris bonne note. Mais cette vertu dont on parlait antioxydante du miel, d'empêcher un maximum le vieillissement de la peau, est telle que dans l'histoire, on l'a aussi utilisé pour conserver des corps, notamment celui d'Alexandre le Grand,
oui.
C'est bien ça?
Déjà, les Égyptiens l'utilisaient dans le processus de momification, parce que le miel a des propriétés, on en parlera sans doute, mais a des propriétés antiseptiques et donc de préservation. Et la légende dit, parce qu'évidemment on n'en a aucune certitude, mais il y a des traductions d'anciens manuscrits qui attestent que Alexandre le Grand aurait été conservé dans du miel, dans un cercueil en plomb rempli de miel. Parce qu'il est mort à Babylone et il a été emmené comme ça jusqu'à Alexandrie en Égypte. Donc il fait chaud dans ces endroits-là et il fallait le conserver.
Voilà. Alors Joseph, le miel, on vient de le dire, a des vertus antiseptiques. On dit même, je crois, qu'une ruche est aussi stérile qu'un bloc opératoire, c'est vrai ça?
Alors je ne sais pas qui dit ça, mais ça c'est complètement faux.
Ah bon, c'est faux alors.
C'est absolument faux, au contraire, il y a un microcosme absolument naturel, normal et même souhaitable dans une ruche. En revanche, le miel est un produit clairement antimicrobien. Mmh. Et s'il est antimicrobien, c'est parce qu'il a quatre propriétés, quatre armes secrètes si je puis dire. Alors tout d'abord, son pH acide. Son pH varie suivant que c'est du miel de nectar ou du miel de miella, entre 3,5 et 5,5. Ensuite, il a un petit moteur enzymatique en lui qu'a rajouté l'abeille, c'est un produit donc animal, qui tourne et qui transforme le glucose en peroxyde d'hydrogène. Alors ce mot vous parle peut-être pas, c'est
non,
de l'oxygéné.
Pas du tout.
L'oxygéné, vous connaissez,
ah oui,
c'est un désinfectant, c'est un blanchissant.
Oui,
oui, mais ça c'est... je m'en sers pas. Mais c'est un produit désinfectant avant tout, l'oxygéné. Ensuite, il renferme, et c'est également rajouté par les abeilles, il renferme des peptides antimicrobiens, dont un réputé qui est la défensine. Et enfin,
Et ça, c'est la particularité d'un miel que tout le monde connaît un peu, qui vient de l'autre bout du monde, qui est le glycol, le méthylglyoxal. Il faut savoir que tous les miels en contiennent, mais le miel de Manuka en est particulièrement riche. Donc vous voyez, quatre armes pour être antimicrobien.
Alors puisqu'on parle des vertus médicinales du miel, nous avons en ligne avec nous Jocelyne Gardner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière stomathérapeute au centre hospitalier de Saint-Brieuc en Bretagne. Alors le miel, on l'a dit, c'est un excellent cicatrisant. Vous l'utilisez même dans votre service à l'hôpital. Dans quelle indication par exemple ?
Alors au centre hospitalier de Saint-Brieuc, oui, nous avons fait le choix vraiment de cibler par contre les indications du miel en fonction du type de plaie et du stade de la cicatrisation. Donc on va l'utiliser essentiellement en phase de détertion, dans les plaies chroniques inflammatoires ou à haut risque infectieux, qu'elles soient peu ou modérément exudatives. On va également l'utiliser dans les plaies traumatiques, atone avec un pourtour inflammatoire. Et troisièmement, on a retenu l'indication du miel dans les plaies à retard de cicatrisation, les plaies chirurgicales avec un retard de cicatrisation.
Et dites-moi, Jocelyne, quel était votre dernier patient traité avec du miel, chez qui ça a donné de bons résultats, par exemple ?
Alors, le dernier patient qu'on a traité avec le miel, c'était un jeune homme de 22 ans qui m'avait été adressé par son chirurgien pour un retard de cicatrisation dans les suites d'une exérèse d'un kyste pilonidal.
Je comprends rien. C'est
un kyste au niveau des fesses qui va se développer à la base d'un poil, au niveau du pli interfécier, souvent chez l'adulte jeune. Et en post-opératoire, la plaie n'est pas suturée, mais nécessite des soins locaux.
Et ça fait très mal, je ne vous le conseille pas, Julia.
Non.
En revanche, juste une précision, Jocelyne, je crois qu'il faut savoir quand même que le miel que vous appliquez sur les plaies de patients, c'est pas du tout celui que je vais aller acheter en bas au supermarché à côté de chez moi.
Ah non, pas du tout, non. On utilise un miel multifloral à usage médical, qui est référencé donc au sein du centre hospitalier. C'est vraiment un produit qui est issu d'une filière sécurisée, c'est un miel médical stérile, qui va du coup permettre de garantir une qualité constante au niveau des principes actifs et dans les pansements de bénéficier des mêmes propriétés d'un pansement à l'autre.
Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne.
Voilà.
Merci. Maintenant, je ne regarderai plus le miel de la même façon grâce à vous. Dites-moi, Joseph, autre vertu, d'ailleurs, santé du miel, on apprend dans votre livre qu'il jouerait aussi un rôle dans la bonne santé de notre microbiote, notre flore intestinale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, clairement... Comme je l'ai dit, le miel est un produit actif et on a montré notamment, des études l'ont montré, que le miel de sarrasin, ou blé noir si vous préférez, il promeut sélectivement la croissance de bactéries lactiques qui sont des hôtes naturels de notre microbiote et on sait aujourd'hui le rôle majeur que joue ce microbiote et il limite le développement d'autres bactéries pathogènes. Donc, à ce titre-là, les polyphénols qui se trouvent dans le miel de sarrasin, qui est assez coloré, eh bien, ils protègent le côlon et sont donc bons pour le système digestif.
Oui, mais alors ça, faut en manger beaucoup ou même une cuillère de temps en temps dans un petit yaourt, ça suffit ?
Alors, une cuillère, c'est bon, mais régulièrement plutôt que de temps en temps.
Ah oui, régulièrement. Joseph, on a une question de Lucas sur Insta pour vous, qui dit avoir lu que le miel pourrait aider à se débarrasser des boutons de fièvre. C'est vrai ou pas, ça ?
Alors, tout à fait. Et là, des études très sérieuses, des études scientifiques, cliniques, ont démontré l'action du miel contre les boutons de fièvre grâce à des applications directes du miel sur les lésions herpétiques. Alors, cette étude a été conduite en comparaison avec le produit pharmaceutique utilisé d'habitude.
Et
il est tout aussi efficace
Incroyable.
Que le produit pharmaceutique. Absolument.
C'est génial. En plus, c'est peut-être plus discret peu de miel que ce petit point blanc, cette crème blanche qu'on met.
Et pour aider, c'est Lucas, je crois.
Oui.
Alors, quel miel utiliser ? On peut utiliser le miel de lavande, qui est très riche dans un flavonoïde qui a montré des propriétés dans ce sens, ou encore le miel de romarin.
Génial. Le miel de lavande contre l'herpès, c'est super.
Ouais, c'est génial. Et pour les fesses, c'est lequel déjà ?
Joseph. C'est un miel médical.
Merci, exactement. Alors Joseph, pour terminer sur les bienfaits thérapeutiques du miel, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, il y a des chercheurs qui ont montré que le miel aurait un effet destructeur contre certaines cellules cancéreuses.
Oui. Alors là, c'est une étude conduite certes in vitro, avec des cellules qui viennent du côlon, qui tapissent la lumière du côlon. Et il a été montré notamment que le miel d'arbousier, qui est particulièrement riche en polyphénol, ainsi que le miel de Manuka qui est riche, je l'avais dit, en méthylglyoxal, c'est une substance antimicrobienne, eh bien, elles peuvent effectivement induire la mort cellulaire des cellules cancéreuses du côlon. Ce sont donc les effets antioxydants et antiproliférateurs qui agissent dans ce cas de figure.
Eh bien, merci, de pistes hein, avec le miel pour nous guérir.
Incroyable.
Ouais,
incroyable.
Merci à vous deux. On va encore poursuivre sur ce thème des bienfaits du miel. Mais alors, en tant que consommateur, ce n'est pas toujours facile d'y voir clair au milieu de tous les pots que l'on trouve dans le commerce. On va voir dans un instant comment bien le choisir, ce miel. Et puis, il y aura aussi quelques conseils culinaires, comme comment, par exemple, je ne sais pas moi, bien l'accommoder dans notre assiette pour en profiter pleinement. On y revient dans le détail dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et ce matin, on s'intéresse dans le détail à l'or de la ruche. Pourquoi le miel est-il ce remède millénaire? On va faire le point avec nos deux invités, Joseph Emerlé, apiculteur, ingénieur et docteur en biophysique, ainsi que Marie-Claire Frédéric, journaliste culinaire, historienne de l'alimentation. Alors Marie-Claire, traditionnellement, le miel se déguste frais et cru, à la petite cuillère par exemple, mais on le cuisine de plus en plus dans des plats chauds. Vous pouvez nous donner des exemples de recettes?
On peut
par
le cuisiner aussi bien en salé qu'en sucré, dans des plats salés que dans des plats sucrés. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un magret de canard. Vous pouvez très bien le badigeonner un petit peu de miel avant de le faire cuire. Ça va donner une saveur complètement différente.
Et en sucré, vous avez une petite recette?
En sucré, traditionnellement, on fait du pain d'épices avec le miel. Hein. Ça, sont des recettes très anciennes, parce que les pains d'épices existent depuis vraiment très très longtemps. Le pain d'épices, c'est tout simple. Il suffit de mélanger la même quantité de miel que de farine. Alors, autrefois, on laissait reposer cette pâte plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Mais essayez, parce que vraiment, c'est vraiment intéressant gustativement parlant.
On va tester, on vous le promet.
C'est simple,
hein.
Même poids de farine que de miel.
C'est simple.
Et vous ajoutez juste un petit peu d'eau pour que ce soit malléable. Oui. Vous laissez reposer un mois. Vous fermez ça dans un film alimentaire, vous laissez reposer. Ensuite, vous reprenez cette pâte, vous l'étalez comme une pâte à tarte et vous découpez des petits sujets avec des emporte-pièces. Vous faites cuire au four une dizaine de minutes. Vous avez des petits pains d'épices qui seront, enfin, vous rajoutez des épices après à votre goût et vous verrez, c'est vraiment délicieux.
Bon, Joseph, comment on choisit ce miel? Parce que moi, j'ai envie de faire cette recette de pain d'épices, mais des miels, j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les consistances, de toutes les origines. Au supermarché, il y en a des tonnes. Comment je choisis bien? Comment je choisis le meilleur?
Alors justement, moi j'ai mis l'accent là-dessus dans le livre. Ce que je souhaitais, c'est aider le consommateur à choisir un miel sans aucun appareil. Alors on peut le choisir d'abord selon l'origine. On sait par exemple, vous lisez dessus lavande, vous savez que c'est une fleur, c'est donc un miel de nectar. Et dans ce cas, vous savez qu'il est assez acide, pH entre 3,5 et 4,5. Si vous prenez un miel de miella, comme le sapin, ou le chêne, ou la forêt en général, vous savez qu'il est un peu moins acide. Donc là, on peut déjà jouer là-dessus. Ensuite, vous avez la couleur. Plus il est sombre, plus il contient des polyphénols. Or, dans le cas du digestif, des troubles digestifs dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on sait que les polyphénols sont les acteurs majeurs. Donc je vais préférer un miel sombre. Et enfin, la texture. Il faut savoir qu'un miel cristallisé, ce qui est un processus tout à fait naturel, il empêche un peu le fonctionnement de cette enzyme, la glucose oxydase dont j'ai parlé avant et qui fabrique cette fameuse eau oxygénée. Donc on va plutôt vers un miel liquide et même si on le dilue un peu, on va permettre à ce petit moteur enzymatique de fonctionner plus vite.
Mais alors, vous parliez justement du sucre, enfin de glucides en tout cas. Quand on goûte du miel, on se rend rapidement compte que c'est sucré et on entend souvent dire que c'est du bon sucre. Mais Joseph, on ne va pas quand même dire que ça ne fait pas grossir, ça reste...
Julien, mais autant de yaourt que de miel.
Moi, je mets autant de miel que de yaourt.
Alors, bon, je réduirai un peu la dose du yaourt. Hein. il faut savoir qu'évidemment, c'est du sucre. Le miel, c'est 80% de sucre, mais au pluriel. Et ça n'a rien à voir avec le sucre de table. En fait, dans chaque miel, vous avez au moins toujours une demi-douzaine de miels différents. Et le sucre de table, qu'on appelle saccharose, ne représente que 5% de ces miels.
Donc c'est pas mal, ça?
Ah, c'est très très bien. Donc on a surtout du glucose et du fructose. Mmh. Alors, pour parler du poids, c'est une aberration de dire que le miel fait grossir. Ça dépend si vous le prenez en plus du repas, dans les goûters, etc. Mais si ça fait partie du repas, bien entendu, ça
si
ne
vous
fera
nourrissez
pas
que de miel, il n'y aura pas de problème.
Voilà. Mais moi, je remplace le sucre par le miel, par exemple, tout le temps.
Ça, c'est très, très bien. Ça, je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous dire pourquoi. Alors, tout d'abord, le miel, 100 grammes de miel, ça apporte 300 calories. Alors que le sucre de table, le même poids, apportera 400 calories. Mmh. Et pour donner un exemple, une cuillère à soupe de miel, c'est l'équivalent de 2 biscottes. Donc vous voyez que ce n'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Et maintenant, pour parler d'un point de vue effet du sucre, il y a bien sûr des diabétiques qui sont fortement concernés. Et bien sûr, il faut que ça rentre dans le cadre du régime glycémique qu'on leur a prescrit. Mmh. Mais c'est du sucre. Mais l'avantage du miel, c'est que d'abord, son index glycémique est plus faible que celui du saccharose et aussi il est plus sucrant. Son pouvoir sucrant est plus grand.
On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup.
Ah ben voilà. Donc, c'est
Marie-Claire, en pâtisserie, d'ailleurs, le miel a longtemps été un ingrédient très utile puisque le sucre n'existait pas, tout simplement, en Occident avant le Moyen-Âge,
c'est ça? Tout à fait. Le miel était à l'origine de la pâtisserie. On a des traités arabes médiévaux qui donnent des recettes de pâtisserie et de confiserie au miel. Et le sucre est arrivé bien après. Et ce qui est fascinant il est fascinant de regarder que ces recettes sont encore pratiquées aujourd'hui. Mmh. Par exemple, le nougat. Mmh. Le nougat existait déjà au XIIe siècle. Et on a des recettes de nougat qui sont exactement les mêmes que celles qu'on fait aujourd'hui.
Et heureusement que les recettes de pâtisserie orientale existent toujours. On remercie d'ailleurs notre stagiaire Inès qui nous en a ramené mal. Bon. Et on n'a absolument pas pris un gramme. Donc merci Inès.
Joseph, alors je vais revenir sur un aspect médical qui n'est pas toujours connu mais qui est très important. Rappelez-nous pourquoi il ne faut pas donner du miel à un nourrisson.
Alors, comme je vous le disais, le miel, c'est produit à partir du nectar que les abeilles ramassent dans les fleurs. Donc, il n'y a rien de stérile là-dedans. C'est une sécrétion végétale. Et il peut effectivement contenir des spores de la bactérie Clostridium botulinum, qui est responsable du botulisme. Alors, cette bactérie, elle est tout à fait naturelle dans la terre. On la trouve partout. Et donc, elle peut se trouver, elle ne doit pas, mais elle peut se trouver dans le miel. Il faut savoir que chez le nourrisson, qui n'a pas encore les défenses de l'adulte, dont le microbiote dont on a parlé n'est pas encore mature, eh bien, il peut contracter le botulisme intestinal infantile. Alors, pour vous donner une idée, autour de l'an 2000, sur 20 ans, on a compté 7 cas.
Donc c'est très peu.
C'est très très peu et seulement 3 de ces nourrissons avaient mangé du miel. Mais c'est une mesure de précaution raisonnable et donc on ne donne pas
jusqu'à
de miel.
Jusqu'à 2 ans,
jusqu'à,
hein,
jusqu'à 1 an.
Jusqu'à
1 an. Et bon, ça donne des troubles digestifs, apathie, manque d'appétit, etc. Mais comme les mamans ne seront pas diagnostiquer la chose, il est préférable de ne pas le donner.
Alors on apprend dans votre livre, Marie-Claire, que l'une des premières boissons alcoolisées bues par l'homme était à base de miel. C'est ce qu'on appelle l'hydromel. C'est quoi exactement? On en consomme toujours de ce nectar?
On en consomme toujours. L'hydromel, c'est un mélange de miel et d'eau qu'on laisse fermenter. Parce que le miel pur ne va pas fermenter. Mais s'il est mélangé à une certaine quantité d'eau, il va se produire une fermentation alcoolique grâce aux levures qui sont présentes à la fois en trace dans le miel et aussi dans l'air. Et donc, ça fait de l'hydromel qui est un espèce de vin de miel, entre guillemets.
J'en ai goûté en Ariège l'été dernier. Alors, moi, j'ai pas trop aimé, je suis désolée.
C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on trouve dans le commerce, moi, je les trouve trop sucrés. Ouais. Je les trouve pas très bons. Mais si vous le faites vous-même...
Joseph, je crois qu'il en fabrique un très bon. Je ne sais pas où je vais lever le doigt.
Mais... j'habite en Bretagne maintenant et je peux vous dire qu'en Bretagne, c'est le fameux chouchen, qui est un apéritif remarquable. Et si vous prenez
Avec modération, bien sûr.
Évidemment, c'est pas très alcoolisé, c'est un super apéritif qu'on boit frais. Mais il faut choisir le bon miel pour le faire. Mmh. C'est très rare, mais vous trouvez du chouchen j'ai découvert ça récemment, à partir du miel de sarrasin.
C'est exceptionnel. C'est bon, mais avec modération. On le répète encore.
Mais avec une bonne crêpe aussi. Oui, attention, c'est important.
Vous parliez de vin justement. Est-ce que le miel, c'est comme le vin? Est-ce que ça se bonifie avec le temps ou pas? Vous disiez qu'il changeait de couleur en vieillissant, mais est-ce qu'il devient meilleur?
Le changement de couleur montre qu'il subit une transformation et malheureusement, non, le miel ne se bonifiera jamais avec le temps. Au contraire, il faut savoir.
Bon
non, au contraire. Alors, il faut savoir que l'abeille, elle a rajouté des substances actives, mais qui sont fragiles. Des enzymes, il y a des petits antimicrobiens, il y a les polyphénols également, qui vont se dégrader avec le temps.
Et dans combien de temps on le garde, alors?
Alors, on donne actuellement la date de durabilité minimale, l'ancienne DLUO, entre 18 et 24 mois.
Ah, quand même. Oui, ça se garde longtemps, quoi.
Alors, je vais vous dire une chose. Le miel ne sera jamais mauvais. Seulement, au bout du compte, ça va devenir de l'eau sucrée parce qu'il manquera ses substances actives. Mais même si vous le mangez après 20 ans, il sera toujours consommable.
On va pas s'empoisonner,
seulement,
évidemment.
Si vous voulez vraiment rechercher les propriétés actives du miel, plus il est jeune, mieux c'est.
D'accord. Eh bien, on va revenir à des aspects très pratiques. Comment je fais, moi, pour choisir le meilleur miel? Parce que, franchement, parfois, on est perdu au supermarché. Est-ce qu'il y a des repères faciles pour en trouver un de qualité?
Alors ça, c'est difficile, c'est vrai, parce qu'il y a énormément de fraudes autour du miel. Déjà, il faut, pour être certain que c'est du miel, du vrai miel, 100% pur miel, parce que certaines personnes mal intentionnées vont rajouter des sirops de sucre et des choses comme ça, ou alors mentir sur la provenance. Enfin, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est d'acheter du miel. Alors, quel que soit le parfum que vous préférez, le parfum de fleurs que vous préférez, ça, c'est votre goût qui vous le dit. Mais regardez bien sur le pot, si c'est un miel produit par un apiculteur, il doit y avoir le nom de l'apiculteur et l'adresse de l'apiculteur sur le pot.
Ça, c'est un gage de qualité.
C'est un gage de qualité.
On a Marie sur Instagram qui confirme, elle dit « J'adore le miel, je ne consomme que du miel cru dans une bonne miellerie pas loin de chez moi. »
Eh ben, elle a tout à fait raison. C'est ce qu'il faut faire. Raison.
Et moi, quand même, j'ai une question pour terminer. Je ne sais pas lequel de vous deux pourriez y répondre. Pourquoi c'est une question de Paul, d'ailleurs, de Grenoble, sur Facebook. Pourquoi dit-on lune de miel ? Est-ce que c'est un rapport avec le miel ?
Oui, ça a un rapport avec le miel. Lune de miel, donc c'est donc il y a lune de miel. Alors, lune, c'est le mois, la lunaison. Donc c'est la lune de miel. En fait, c'est le mois qui suit le mariage. C'est un mois très agréable parce que le miel évoque la douceur de l'amour, des liens, la douceur
Joseph,
des liens du mariage.
Et, là, et pour compléter et historiquement, points. Les pharaons, oui. lorsqu'ils se mariaient. Ils buvaient de l'hydromel, la première lunaison, parce que c'était réputé aphrodisiaque.
Voilà. On va terminer sur ça,
pas uniquement les pharaons, en Europe, dans l'ancienne Europe, on buvait aussi de l'hydromel lors de la cérémonie du mariage, puisque c'était une boisson un peu sacrée, considérée comme sacrée.
Et un peu coquinette.
Voilà. On va terminer sur la lune de miel.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Et pour davantage d'infos, je rappelle vos ouvrages respectifs. Votre livre, Marie-Claire, Frédéric, c'est le miel, une autre histoire de l'humanité aux éditions Albin Michel. Et pour les conseils de Joseph et Merlet, vous les retrouverez dans Le miel, résurgence d'un remède millénaire aux éditions Terran.
Merci encore à tous les deux. On va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord Philippine Darblay avec une nouvelle tendance déco, la déco érotique, des astuces pour faire monter un peu la température dans vos intérieurs. Et ensuite, il y aura la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Elle a repéré quelques livres pour nos enfants qui mettent les animaux domestiques sur le devant de la scène. Ambiance boule de poils dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous. Votre magazine Bien-être, c'est tous les matins de 11h à midi en direct. Alors à présent, on va débuter notre partie tendance, ces bons plans qui nous font du bien. Et pour cela, ben, elle est déjà avec nous, comme tous les mercredis. C'est Nathalie Le Breton. Elle est surprise, c'est Philippine qui croyait commencer à parler. Non, vous allez juste nous expliquer dans quelques minutes, vous allez nous parler de quoi finalement ?
Eh ben, boule de poil, vous le disiez, voilà.
Ah, boule de poil.
Et gros câlin. Et
ça va faire la transition avec Philippine, boule de poil, gros câlin.
Gros câlin et engagement longue durée. Je sais pas si tu vas parler de fidélité, mais on peut y aller.
Allez. C'est parfait. Donc Philippine, ça va être à vous, boule de poil et câlin. Je ne sais pas s'il y aura ça au menu, mais vous allez nous parler d'une nouvelle tendance déco, et pas n'importe laquelle, une déco érotique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces vases et ces bougies aux formes intimes, ou encore cette vaisselle là que vous avez mis devant nos yeux ?
Écoutez, c'est une bonne entrée en matière. Effectivement, on sent qu'il y a des liens ce matin. Moi, je tiens à préciser, c'est une déco qui reste suggestive, c'est mignon, c'est pas choquant.
Ah non, c'est très mignon.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on parlait de bijoux érotiques. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit pendentif en forme de fessier ?
Vous pouvez le voir sur
europe1.fr. Voilà, c'est très mignon. Et c'est le travail d'Anissa Kermich qui décline aussi son concept en céramique.
On a le petit pot en forme de fesses, dont la finition montre une peau adipeuse avec la cellulite, qui s'appelle popotin, donc un jeu de mots avec le pot, popotin. On a une autre version d'un pot qui a plein de bourrelets et encore plus de cellulite, qui s'appelle popotelé. On a le love handles, qui veut dire poignée d'amour en anglais. Et c'est un jeu de mots avec les poignées de ce vase qui représente une femme avec la taille fine et des fesses assez conséquentes. Il y en a un qui représente des jambes ouvertes qui s'appelle open-minded. Donc, au lieu de jambes ouvertes, je l'ai appelé ouvert d'esprit. J'ai beaucoup rire aussi. Je vois les accessoires d'une maison comme les accessoires que vous pourriez porter. C'est-à-dire votre maison, c'est votre écrin, c'est vous en fait.
Voilà, j'adore moi cette univers.
C'est chouette, un pot-potelé. Vous avez aussi de la vaisselle en plateau,
ouais,
hein, je vois ça.
Oui, il y a de la vaisselle en plateau. En fait, celle-là, c'est le travail d'une autre artiste qui s'appelle Carla Soutra, de son nom d'artiste donc, qui a eu le déclic quand elle a découvert des estampes érotiques japonaises. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aimez bien ce que vous avez face aux yeux là,
moi, j'ai une fessée.
Devant les yeux. ou une fessée.
Une assiette en fessée, enfin une fessée dans une assiette.
Mais
citron, moi j'ai un.
Une pose suggestive
de deux corps enlacés à l'envers.
Hein. Ouais, moi j'ai des corps entrelacés, très jolis.
J'aime
sur
beaucoup
fond
la bleue, moi chez vous.
On dirait
du
cocteau, je sais pas si c'est joli.
On vous les montre sur notre compte Instagram, vous pouvez les voir tout de suite, évidemment.
Moi par exemple, j'aime bien aussi ce petit carrelage parce qu'on sait pas trop si c'est des formes d'hommes ou de femmes. Enfin bon, bref, c'est libre d'interprétation. Et ce que je trouve amusant, c'est qu'on retrouve même cette tendance dans des maisons qui sont un peu plus classiques, comme par exemple chez Diptyque, qui a ressorti de ses archives un dessin qui s'appelle Odalisque, je vais vous le montrer, qui est là. Voilà, et donc ils en ont fait un papier peint, et puis voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça reste les gants, il y a des nuages, peut-être un corps de femme, bref.
Un corps de femme assis, nu.
Voilà, c'est ça. C'est comme on veut, vraiment chacun voit ce qu'il veut.
Pourquoi rendre public et visible finalement des éléments de l'ordre de l'intime, Philippine ?
C'est vrai que c'est une bonne question, en tout cas pour l'artiste Carla Sutra, c'est un moyen de revaloriser la sensualité.
Au départ, c'était pour replacer la sensualité où elle est, c'est-à-dire dans la vie. Parce que je pense qu'elle a été complètement maltraitée, entre guillemets, à beaucoup d'égards, surtout dans notre époque. On a un monde paradoxal parce qu'on est à la fois aseptisé et à la fois complètement trop, notamment avec l'industrie du porno, qui, je pense, a fait beaucoup de mal. Voilà, donc ça montre que c'est quelque chose de très important dans la vie, en fait. Ainsi, aujourd'hui, là, depuis peu, il y a beaucoup de choses qui apparaissent comme ça. C'est aussi que les sexualités sont peut-être plus libérées, peut-être qu'on en parle beaucoup. Je pense que ça vient du contexte de notre société actuelle et de toutes les questions qu'on se pose. Et voilà.
Et on peut les dénicher où, ces objets, Philippine ?
Là, en fait, on vient surtout de parler de petits créateurs qui sont vraiment les initiateurs de ce mouvement. Donc, évidemment, on retrouve toutes ces infos sur leur site internet. On va partager tout ça. Ou même dans des grands magasins comme Le Printemps, par exemple, à Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, alors, c'est des choses qui sont faites main. Ces petites assiettes, elles sont à 45 euros pièce.
Des assiettes à dessert, petites, mais effectivement, avec beaucoup de travail quand même.
Exactement. Après, c'est vrai que les prix peuvent grimper. Il y a les assiettes d'une autre artiste qui s'appelle Laetitia Rouget, qui peuvent grimper à 100 euros pièce. Et pour vous donner une idée là de ces petits, par exemple, du pot popotin d'Anissa Kermich, ça démarre à 80 euros. Après, évidemment,
donc c'est accessible quand même.
Voilà, ça c'est accessible et encore, je vais vous dire, il y a plus accessible parce que, bon, heureusement, malheureusement, les grandes tendances déco, comme dans la mode, sont reprises très vite par des grandes enseignes. Donc typiquement, on peut retrouver chez La Redoute des verres en forme de petits fessiers là aussi. Puis à mi-chemin.
À combien à La Redoute
Là, c'est 30 euros pièce. D'accord. Donc effectivement, c'est pas du tout les mêmes prix, on imagine, mais c'est. Enfin, pour moi, la déco aujourd'hui, elle est vraiment comme la mode, quoi.
Et puis, on peut sûrement dénicher du vintage aussi, j'imagine.
Mais oui, tout à fait. Alors, quoi mieux que les années 80... Quoi de mieux, pardon, que les années 80 qui sont très hot pour s'en inspirer. Pourquoi pas ressortir les couvertures Playboy, les cartes postales coquines. Vous voyez, moi, ça m'avait toujours fasciné.
Mais
oui,
vous
voyez là, les filles nues qui se baladaient avec des énormes seins. Bon, je pense que joliment encadré et détourné, en vrai, ça peut être assez amusant. Et puis, si vous adorez le do-it-yourself, pourquoi pas s'inspirer un peu de toutes ces références érotiques pour faire vos propres assiettes dans un cours de poterie ou même vos bougies fait maison. Parce que ça, c'est une nouvelle tendance sur TikTok aussi.
Julia va s'y mettre, c'est sûr. Déjà, si j'arrivais à faire un œuf dur. Merci Philippine pour cet éclairage. On devrait tous opter pour un petit détail un peu coquin comme ça pour pimenter nos intérieurs. Bon, on va passer à toute autre chose, à des livres qui vont plaire beaucoup à nos enfants. Il y a des bienfaits pour tout le monde dans cette émission. Bonjour Nathalie Le Breton.
Bonjour.
Il y a une vraie tendance en ce moment dans les familles, c'est d'accueillir un animal domestique, chien, chat ou autre. Et pourtant, même si les enfants le désirent sincèrement, c'est pas simple de leur faire comprendre que c'est un vrai engagement.
Oh oui, une grosse responsabilité. Oh là là, je sens.
Oh
oui. Vous avez un animal, Mélanie.
Oh oui, un chat qui a été très demandé, mais dont personne ne s'occupe plus de la litière ni des croquettes.
Sauf
moi.
Donc, c'est une responsabilité longue durée. Et c'est vrai que j'ai été inspirée parce que, vous savez, moi, j'adore les animaux. J'ai un chien, un chat, et il y a eu un accident avec mon chien Socrate, et la personne s'est enfuie. Et je me suis dit que, décidément, le combat était encore à mener, et dès le plus jeune âge, pour expliquer aux enfants à quel point ce sont des êtres vivants. Je commence avec un livre qui s'appelle « J'en rêvais depuis longtemps », livre formidable d'Olivier Talec. Ça a l'air totalement classique. Déjà, la première chose, il faut renverser le livre pour le lire. Il faut mettre dans le sens de la largeur plutôt que d'être dans le sens de la hauteur. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un petit changement de focale. Classique parce qu'on y voit la rencontre d'un petit garçon avec son animal, avec son chien. Et donc, effectivement, ces deux-là doivent apprendre à s'apprivoiser. Et évidemment, on se rend compte que ce petit être, il a des besoins, des ressentis, des talents, qu'il est très gourmand, par exemple. Il déteste les croquettes, il aime bien les bons, vrais petits plats. Mmh. Il adore profiter de la vie, se mettre dans le canapé, paresser un tout petit peu. Bien sûr, il faut faire attention à lui, à la plage, hein, n'est-ce pas ? Grande vigilance, grande attention. Sauf que, d'un seul coup, le doute s'immisce, notamment quand il s'agit du lancer de bâton, parce que d'un seul coup, le lancer de bâton, on s'aperçoit que c'est le chien qui parle. J'en ai un peu ras-le-bol, qui me lance un bâton, il faut sans arrêt lui ramener, etc. Et donc, on se rend compte que le sens du livre, c'est le chien qui est en train d'adopter l'enfant. Et les similitudes entre leurs compétences, leurs besoins, leurs ressentis, bah oui, un enfant ne le laisse pas comme ça. Oui, un enfant, il aime bien manger les bonnes choses et pas juste n'importe quoi. Oui, c'est pas toujours simple d'aller se coucher. Souvent, on veut se lever, etc. Et donc, vous relisez tout de suite le livre avec l'enfant, avec cette nouvelle focale, en vous disant, c'est le chien qui est en train d'adopter le petit.
Et ça change tout.
Mais il n'y a pas de morale, vous voyez. On fait comprendre à l'enfant en le faisant changer de posture.
Mais Nathalie, accueillir un animal, c'est pas toujours possible hein, pour des questions d'argent ou même tout simplement par manque d'espace.
Oui, alors par manque d'espace, par manque de temps. Aussi, vous en parliez, et très souvent c'est les parents qui finissent par s'en occuper. Alors j'aime bien cette histoire de Sam et Lulu parce que l'idée c'est de faire comprendre à l'enfant que bien sûr ce sont des êtres vivants, je n'y reviens pas, mais surtout qu'aimer les animaux c'est les respecter dans leur liberté. L'histoire de Sam et Lulu, c'est donc un petit garçon qui est plein d'empathie. Regardez, les illustrations sont très enfantines, ce qui fait que l'enfant va rentrer très facilement. Et ce petit gars, il a plein d'empathie, il tombe sur un petit lapin qui s'est fait mal, qui est malade. Bien sûr, il veut l'adopter et le soigner, c'est ce qui se passe. Et sa maman le prévient, il va falloir que tu le libères, cet animal. Bien sûr, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Pensant un peu que sans doute il l'aide comme lui, ce qui n'est pas tout à fait le cas, il lui propose ses propres jeux. Et il n'y a rien à faire, le petit lapro, il commence à déprimer. Et il ne veut toujours pas, Sam, libérer son lapro. Alors ça va être bientôt son anniversaire à ce petit gars. Et sa mère décide de lui faire comprendre et elle lui offre un service à dînette, ce dont évidemment il ne rêve pas. Voilà, il rêve d'un vélo. Et d'un seul coup, il est très en colère. Mais il comprend que ce qui est important, bah, finalement, vous voyez, ce petit lapro, il n'est jamais aussi bien pour jouer que quand il est dehors avec ses frères et sœurs dans la nature, plutôt que de lui imposer des jouets. Donc là, on peut expliquer à l'enfant que ben, ça n'est pas une peluche et on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut.
Nathalie, à défaut d'avoir un animal, on peut aussi choisir de s'engager pour la cause animale.
Ce que vous avez fait d'ailleurs, Julia.
Bah oui, c'est vrai, exactement.
Mais oui, j'aurais pu, bien sûr. Mais vous savez que c'est vieux, hein, les droits des animaux, c'est 1976 et aujourd'hui, on milite pour lutter contre la maltraitance animale. Ah oui. Bon, je ne reviens pas. On aurait pu parler de Saint-Ex. On aurait parlé du petit renard qui nous explique à quel point finalement les êtres humains se relier, s'apprivoiser, ils ne savent plus faire. Ils sont tellement habitués à acheter, n'est-ce pas, que, sauf qu'à un moment donné, des amis, ça ne s'achète pas, il n'y a pas de marchand d'amis. Mais non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de Philonimo. C'est une nouvelle collection qui vient de sortir chez Troisième Œil, dirigée par Alice Brière-Aquet. Et là, les illustrations de Kaziko Matt, le chien de Diogène. J'aime bien cette collection. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut repenser les animaux avec les enfants, en parallèle avec nous, les êtres humains, et donc les petits d'hommes. Et c'est une superbe idée que de revisiter des adages avec la philosophie. Vous connaissez cette expression, avoir une vie de chien. Nul, avoir une vie de chien. Ben non, mais on va réfléchir un petit peu différemment grâce à ce Diogène. J'ai le droit de faire un peu de philo.
Très rapide.
Si j'étais un chien, je crois que je serais bien. Je vivrais dehors, voilà, loin de la horde des hommes, de leurs ordres et de leur ordre. Je vivrai au fil des saisons, je vivrai avec les toujours, les tant pis. Et si jamais un roi, un homme me demandait l'or du monde de faire tout ce que je veux, je lui demanderais de disparaître du soleil parce que ça, c'est l'or de la vie. Vous voyez que les animaux nous font respecter sur le sens de notre vie.
Merci beaucoup Nathalie. Et dans le genre, on pourrait aussi relire les fables de La Fontaine.
Ah bah oui,
Nathalie, tous ces conseils lecture, on les retrouve donc évidemment sur europe1.fr et les livres même dans les box par abonnement de votre plateforme notisséautant.fr. Voilà, notre émission touche à sa fin. Mais nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi ?
Ah, demain, il y aura de l'amour dans l'air dans notre émission. Et vous savez, en amour, il y a deux proverbes. Les opposés s'attirent et qui se ressemble s'assemble. Et bien, dans Bienfait pour vous, on va parler des différences dans le couple. Si parfois, elles font le sel hein, des relations
relations amoureuses, on verra qu'il existe aussi des différences inconciliables. En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour, quel est le programme ?
Bonjour Julia, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'amour ce soir à 21h dans le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je ne suis pas certain. Mais on va beaucoup en parler en tout cas dans quelques instants dans Europe Midi. Voilà, ça sera le principal sujet bien sûr.
J'imagine, merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.